chercheur au centre de Perelman de philosophie du droit, ce qu'est également Grégory Lefkovitch. Et je cède d'abord la parole, si je ne me trompe pas, à Thomas Berns pour nous parler donc de la norme avant Hume. Merci beaucoup.
Bien, bonjour. Alors, je ne sais pas si c'est un premier effet de l'oubli du principe d'égalité, l'oubli du principe républicain d'égalité auquel on assiste avec le gouvernement par les normes. Mais donc, on a d'abord une période sans fin à se partager, hein, puisqu'on va devoir parler des normes avant Hume. Mais en plus, on s'est tout à fait régulé entre nous de façon spontanée, joviale, gentille, sociable, etc. De telle sorte que je dois parler, enfin que Grégory, je vais commencer par lui, doit parler des normes avant Hume, mais à partir de l'économie politique, ce qui finalement ne fait jamais qu'une bonne petite centaine d'années, tandis que moi, je dois m'occuper de tout ce qui précède l'économie politique. Alors, je vais poursuivre en fait sur les traces de Benoît Friedman, dans la mesure où je vais continuer cette opposition entre normes et règles. Mais avant tout, je voudrais ajouter un petit élément peut-être à son introduction, qui consistera à rappeler quand même, il faut bien le dire, le cadre politique de cette émergence d'un gouvernement par les normes dont il a donné quelques aspects. Et ce cadre politique, c'est tout simplement celui du néolibéralisme, sur lequel je vais revenir à gros traits, très rapidement, en me basant sur un vague souvenir que j'ai des textes de Foucault, des derniers cours de Foucault au collège, dans lesquels justement il a affronté cette question du néolibéralisme, en montrant bien qu'il s'agissait de penser avant tout dans sa différence par rapport au libéralisme classique, sur lequel on s'arrêtera par la suite. Alors, en quoi consiste cette différence? Dans le fait que le libéralisme, pour le dire vraiment très vite et de façon caricaturale, consiste essentiellement dans le fait de laisser faire certains types de relations humaines, le marché pour aller vite, qui sont considérés comme rationnels, sociables, et surtout, c'est sur ce point-là que je veux insister, qui sont considérés comme naturels. J'insiste très fort sur ce caractère finalement juste naturaliste, hein, inscrit dans une nature du premier libéralisme, qui, pour le dire vite, consiste à développer finalement une approche ontologique de l'économie. Alors, si je rappelle ça, c'est parce que face à cela, la différence est facile à marquer. Face à cela, il faut considérer au contraire le néolibéralisme comme étant essentiellement normatif et constructiviste. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, de façon toujours simple et un peu caricaturale, qu'il s'agit de construire le marché, de construire les comportements, de construire la société, bref, de diffuser des normes qui permettent, qui facilitent, qui augmentent la concurrence, c'est-à-dire, grosso modo, de façonner les acteurs, l'État lui-même, la société, ces hybrides publics-privés dont nous parlerons, les individus, etc., de façonner tout cela pour que leurs actions aient du sens dans la perspective d'une logique marchande. Alors, je vais toujours aussi vite, cela permet dès lors une extension phénoménale de la rationalité économique jusque dans des lieux qui lui étaient auparavant absolument étrangers. Hein, il faut se souvenir que dans la perspective d'Adam Smith, par exemple, hein, donc du libéralisme classique, on était toujours dans un rapport de tension, mais donc aussi de différence entre ce qui est économique et qui s'inscrit dans cette nature dont je parlais dans un premier temps, et ce qui relève d'autres domaines, individuels ou collectifs, comme la politique, la morale, etc. Au contraire, dans la perspective du néolibéralisme, la finalité, la visée, est véritablement de faire en sorte que tout comportement, c'est-à-dire aussi tout sens moral, par exemple, peut devenir délibération ou choix rationnel sur les coûts, sur les bénéfices, sur les conséquences. Et ce, et il me semble que c'est ça la visée la plus profonde, ce de telle sorte que les sujets, qu'ils soient une nouvelle fois individuels ou collectifs, peu importe, soient pensés comme entièrement responsables de leur propre comportement. Alors, ceci signifie, puisque j'ai dit que le néolibéralisme était constructiviste, était normatif, cela signifie que tous les actes de gouvernement étatiques ou non étatiques qui seront étudiés ici et qui me semblent relever de cette pensée néolibérale doivent permettre ou doivent donner lieu à une conduite des sujets, quels qu'ils soient, individuel ou collectif, une nouvelle fois, qui les met dans cette situation de responsabilité complète, c'est-à-dire sans jamais que ces actes de gouvernement permettent de donner lieu à un cadre qui définirait une responsabilité extérieure au sujet. Alors ce point-là me semble essentiel, hein, puisqu'il nous situe, puisque pour comprendre la perspective néolibérale, on doit se situer face à un paradoxe ou face à une aporie extrême, puisqu'il s'agit, je l'ai dit dès le début, de construire quelque chose, de développer un point de vue normatif, sans que ce qui est construit, sans que les cadres qui sont établis, hein, n'impliquent d'aucune manière la possibilité de définir une responsabilité pour les comportements des sujets qui serait extérieure aux sujets eux-mêmes, qui serait extérieure aux comportements des sujets. Dès lors, ces actes de gouvernement propres à cette tradition ou à cette époque néolibérale doivent être en tout point distincts, me semble-t-il, de ce qu'on peut appeler classiquement une action politique, c'est-à-dire qu'ils doivent être d'abord aussi invisibles que possible. Quant au fait, pourquoi ils doivent être aussi invisibles que possible, parce que, ou sinon, ils seraient eux-mêmes porteurs de sens, ils définiraient eux-mêmes de la responsabilité extérieure au sujet, et donc ils doivent être aussi neutres, aussi objectifs, c'est-à-dire techniques et administratifs, Benoît l'a rappelé tout à l'heure. Donc idéalement, on peut dire que le propre de ces actes de gouvernement, de ce gouvernement par les normes, doit consister à dévoiler, à montrer et surtout pas à faire quelque chose. Il s'agit donc de gouverner sans faire, gouverner sans agir, mais simplement gouverner en montrant ou en dévoilant. Alors, j'en finis avec ce petit passage introductif. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est donc une certaine genèse de ces actes de gouvernement qui modèlent, qui classent, qui profilent les comportements en paraissant pourtant ne rien faire, en semblant ne rien définir. C'est-à-dire sans jamais donner lieu à un cadre qui définirait une responsabilité extérieure à celle de l'agent qui est classé, qui est contrôlé, qui donc s'évalue, etc., comme le rappelait Benoît. Alors j'ai dit faire la genèse de ceci. Plutôt que faire la genèse, je dirais que je voudrais simplement montrer que ce type de dispositif, que ce type de gouvernement, donc qui consiste à rendre visible sans rien faire, a toujours été exploité, mais qu'auparavant, c'était des actes de gouvernement considérés comme extrêmement marginaux, et donc peu présents dans l'histoire de la philosophie, d'où le fait que je me baserai sur des auteurs finalement relativement méconnus par la suite. Alors, ces dispositifs, qui consistent donc à gouverner sans rien faire, mais seulement en montrant, consistent toujours à établir, je le montrerai un peu, à établir une continuité radicale entre ce qui relève de la politique et ce qui relève de l'économique. Et ça me permet de structurer, de limiter, ou de borner du moins un tout petit peu mon propos historique, dans la mesure où on dispose avec ça de deux bornes assez précises, assez classiques, je ne dis rien d'original là, d'une part Aristote, d'autre part mon chrétien. Pourquoi Aristote ? Puisqu'il a posé, hein, de manière absolument radicale, définitive, hein, c'est devenu un topos de la pensée politique par la suite, il a affirmé, posé, donc, la différence absolue entre ce qui relève du politique et ce qui relève de l'économique. Une différence qui, nous dit-il, est non pas simplement quantitative, hein, en ce qu'il y aurait le niveau, disons, de la maison ou de la boutique et plus haut le niveau de l'État, mais c'est une différence qualitative, c'est-à-dire une différence de nature. La politique, c'est ce qui est promu par le citoyen, par l'homme d'État, dans la cité, et qui renvoie donc à la fin dernière de l'homme, tandis que l'économique, dont le modèle pour Aristote est le chef de famille, renvoie au contraire, renvoie toujours au bien-vivre, mais seulement du point de vue des besoins, du point de vue de ce qui est nécessaire. Alors, pour être précis, il faudrait encore distinguer, et c'est essentiel pour Aristote, mais ce n'est pas pour mon propos, il faudrait distinguer encore ici économique et crématistique, hein, la crématistique étant ce dont le modèle est non plus le chef de famille, mais le commerçant. Hein, avec le chef de famille, on parle d'acquisition naturelle des richesses, qui vise le nécessaire et qui donc vise quelque chose de limité. Avec la crématistique, au contraire, on parle toujours d'acquisition des biens, mais d'une acquisition qui porte sur des objets, sans, qui n'a pas d'objet précis, hein, donc qui est illimité et qui doit faire avec un désir insatiable. Cette distinction est importante pour Aristote, mais elle ne l'est pas tellement pour mon propos, retenons simplement donc que dès Aristote est posée de façon radicale cette séparation entre ce qui relève de la politique d'une part et d'autre part de l'économique et de la crématistique. Alors c'est contre cette séparation évidemment que va s'articuler mon propos, hein, dont la borne extrême, hein, ou plus proche de l'économie politique, c'est un texte publié par Antoine de Montchrétien en 1615 et qui s'appelle justement « Traité de l'économie politique » et qui affirme de façon absolument explicite que, à l'opposé d'Aristote, Bonin l'avait déjà un peu fait avant lui, hein, enfin c'est Montchrétien qu'on retient habituellement comme étant le moment clé de cette naissance de l'économie politique, qui affirme donc que politique et économie, tout simplement, ne peuvent pas être séparées, sauf à établir une rupture entre la maison et la cité, c'est-à-dire, comme le dit Montchrétien, et comme le disait Bodin avant lui, à envisager une cité qui serait sans maison et sans habitants. Bref, il s'agit, dans son chef, de refuser cette préséance, de nouveau des choses habituellement reçues, hein, cette préséance du tout de la cité sur les parties, pour considérer au contraire, et là on arrive à quelque chose de plus proche de l'objet de ce séminaire, pour considérer au contraire que la vie matérielle, c'est-à-dire l'économique et la crématistique, enfin la boutique et la maison, pour aller vite, donc la vie matérielle est comme telle porteuse de normativité. Alors on voit bien ce que cela signifie vers le futur, c'est-à-dire quant à l'émergence progressive d'une nouvelle discipline, l'économie politique, et ça, Grégory en parlera par la suite. Ce que je veux questionner maintenant, c'est les composantes et la genèse, la mise en place de cette idée d'une rencontre entre économie et politique. Alors pour Montchrétien, et derrière lui une nouvelle fois il y a Bodin, il le dit sans détour, ce que réclame cette naissance de l'économie politique, c'est avant tout, je le cite, d'éventer le secret des maisons, de faire voir clair au fond des affaires. Alors ici, la visée statistique apparaît clairement. Ce que semble exprimer à première vue, et qu'exprime sans doute quand même pour une bonne part Montchrétien, c'est le projet d'une maîtrise plus forte qu'auparavant sur le territoire et sur le détail des vies de chacun qui deviendrait objet de la politique, là où ça ne l'était pas avant. Et ce, dans un but qui peut être un but policier, qui peut être un but fiscal, qui peut être un but économique, qui peut être un but militaire. Dans cette perspective-là, que je vais immédiatement contredire ou atténuer du moins, on assisterait en quelque sorte à une extension de la puissance de l'État, ce qui effectivement a parfaitement son sens dans la perspective mercantiliste de la première génération de l'économie politique, qui était entièrement centrée sur cette puissance de l'État. Mais cette représentation de la naissance de l'économie politique comme une sorte de descente du politique vers la vie réelle, vers le détail de la vie réelle, laquelle serait pensée donc comme disponible pour le politique, me semble tout à fait incomplète, dans la mesure où, si on analyse les choses historiques, ce à quoi on assiste tout autant, c'est à la nécessité d'une, j'ai parlé d'une descente du politique, d'une descente de l'État vers le détail des vies, ce à quoi on assiste, c'est aussi à une sorte de remontée de toute une série de capacités propres à la vie réelle, hein, la famille, la boutique, vers le politique. Et ce que j'évoque ici, ce sont une série d'auteurs qui, justement, ont fortement marqué Antoine de Montchrétien, hein, qu'on comprend habituellement dans la tradition de la raison d'État. Hein, bon, on est à la seconde moitié du XVIe, on est dans cette pensée un peu bizarroïde qui fait la charnière entre Machiavel pour aller vite et Hobbes, hein, et dans lequel des auteurs peu connus, je peux donner les références après le séminaire si vous le voulez, comme Ammirato, Cavriani en Italie, mais avec des retombées dans nos contrées nordiques, hein, chez des auteurs comme Juste Lips par exemple chez nous, ou Jean de Choquier à Liège, tous ces auteurs insistent sur la nécessité de faire du livre du marchand, du livre secret du marchand, du livre de famille, et donc de la connaissance propre au père sur sa famille ou au marchand sur ses propriétés, de faire de tout cela le modèle du politique. Le prince doit tenir des registres de sa population comme, et connaître donc ses sujets, comme le marchand tient ses livres de compte et connaît sa propriété, ou comme le père connaît sa famille. Alors là, on n'est plus du tout dans la perspective d'une politique qui descendrait au point de violer la vie privée de la maisonnée ou la vie de la boutique, donc d'entrer du politique qui descend dans l'économique, en quelque sorte au sens aristotélicien. Mais on est au contraire dans un tout autre regard sur la chose, à savoir qu'est-ce que c'est faire de la politique comme on tient sa maison. Donc non pas faire de la politique en descendant dans les maisons, mais faire de la politique comme on tient sa maison. Ici, je dois ajouter une nouvelle figure qui m'est chère, que j'ai déjà évoquée devant une partie d'entre vous, et je prie de m'excuser d'être un peu répétitif, à savoir la figure du censeur. Pourquoi j'évoque le censeur ? Parce qu'il permet, institution romaine, mais qui est réévoquée dans toute une série de discours politiques à la fin du XVIe siècle, je l'évoque parce que c'est chaque fois cette figure-là qui, avant même que n'apparaisse le terme d'économie politique, permet de donner un nom à cette nécessité de nouer un lien entre politique et vie réelle, vie de la famille, vie de la boutique. Où trouve-t-on ça? Principalement chez Jean Bodin, donc, et aussi chez Juste Livre, ce que j'ai déjà cité, chez André de Montchrétien aussi, chez Altusius, chez Obrecht en Allemagne, toute une série d'auteurs donc, de cette période pré-économie politique. Le censeur, c'est l'institution qui développe, qui permet un certain type de connaissance sur la vie privée des sujets et sur leur richesse. Alors, que nous dit Bodin à propos de ce censeur? Le censeur est nécessaire, le censeur n'existe plus, enfin, sauf dans la perspective de l'Inquisition, hein, enfin pas l'institution romaine, mais il nous dit que cette institution est nécessaire, je le cite, soit pour entendre le nombre et qualité des personnes, dénombrement et recensement des personnes, soit pour l'estimation et déclaration des biens d'un chacun, dénombrement des richesses, soit pour régler et morigérer les sujets, morigérer, c'est-à-dire gérer les mœurs étymologiquement, donc perspective plus morale. Donc on le voit, on se trouve avec cette institution-là, telle qu'elle est du moins revivifiée au seuil des temps modernes, on se trouve face à un mixte administratif, statistique, économique et moral, très clairement, comme en témoigne la fin de la citation que vient d'enjeuner. Le censeur, c'est celui qui doit tenir des registres des populations, tenir des registres des richesses, qui doit permettre une certaine prévision des besoins, c'est la naissance de la perspective statistique, qui doit organiser la possibilité du fisc, évidemment, cette nécessité fiscale est très présente, qui doit enfin gérer les différences de richesse en ce que celles-ci sont porteuses de troubles. Alors en quoi est-ce que le censeur gère les différences de richesse? D'une part, plusieurs auteurs y insistent parce qu'il permet de distinguer les vrais pauvres, comme dit Montchrétien, des faux pauvres, c'est-à-dire des mendiants, des clochards et tout ce qu'on veut. Là, il faut distinguer l'abeille de la mouche, comme le dit Bodin. Il faut supprimer les sangsues, comme dit un autre auteur que je vous citerai par la suite. Donc, première perspective, contrôle de la pauvreté, d'autre part, contrôle aussi de l'excès des richesses, contrôle sur le luxe, mais dans une nouvelle perspective qui n'est plus du tout celle réglementaire des lois somptuaires qui prétendaient justement limiter les excès en termes de richesse, limiter le luxe, mais dans une perspective beaucoup plus autorégulée que je vais exposer par la suite. Alors, la caractéristique première de cette fonction des censeurs qu'on retrouve tant au XVIe siècle, chez ces auteurs un peu bizarres que je vous cite, que chez les auteurs romains qui s'y réfèrent, la caractéristique première est qu'elle permet, et je me réfère ici à Florus, un historien romain assez tardif, le censeur permet que la plus grande des cités soit tenue avec la même diligence que la plus petite des maisons. Donc on retrouve très précisément de nouveau ce modèle faire de la politique comme on gère une maison. Alors que fait concrètement, tant chez les Romains que dans ses évocations dans les textes du XVIe, que fait le censeur, tout simplement? Le censeur, c'est assez clair, il recense, c'est-à-dire il classe. Et par ce biais, hein, sur ce côté un peu indirect de son action que je vais essayer de cerner, par ce biais, il développe une action normative, il revêt un rôle moral que signalait Bodin, et que tous les auteurs latins s'empressent de signaler, hein, en disant que le censeur, c'est le garant de la moralité collective, etc. Alors, ce qui est très important quand on essaye de comprendre en quoi consiste cette institution un peu bizarre qu'est le censeur, c'est que son action est fondamentalement non juridictionnelle et qu'elle n'est pas assortie de sanctions. Et donc là, je poursuis cette opposition entre règles et normes qu'avait commencé Benoît. Son rôle est avant tout administratif et il n'est moral, et tous les auteurs insistent là-dessus. Hein. Je veux dire, le censeur n'a qu'un rôle administratif, mais il est aussi le garant des mœurs. Hein, et c'est seulement donc indirectement, de manière transitive, que son action peut devenir normative et morale. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les normes qui sont ici développées ne consistent pas dans des règles qui donneraient lieu à un contrôle des actions, mais au contraire qu'il y a toute une série d'actes techniques ou d'actes administratifs du recensement qui donnent lieu à une forme de normativité purement réflexive de la part des sujets. Donc le censeur agirait d'un point de vue normatif par le simple fait de recenser et de classer les gens. Alors je prends ici un passage de la République de Cicéron, passage très bref, puisque c'est une partie du texte de la République dans le livre 4e, chapitre 6, qui n'est disponible qu'en fragments, qui ont été retrouvés par la suite hein, chez Nonius, entre autres, chez Augustin, beaucoup, etc. Donc, fragment 5 du chapitre 7 du livre 4. « Le verdict du censeur n'inflige guère aux condamnés, le mot n'est pas très bien choisi, aux condamnés que la rougeur de la honte. Voilà pourquoi, de même que toute cette manière de juger ne concerne que le renom, dit la traduction, mais c'est plutôt le nom, hein, in nomine, la peine dont elle frappe s'appelle ignominia, perte du renom, perte du nom, donc. Donc c'est le seul fait, nous verrons encore cette idée par la suite, c'est le seul fait du regard du censeur qui produit, qui est agissante par cette production de rougeur que signale Cicéron et que reprendront tous les auteurs que j'ai déjà signalés auparavant. C'est dans la mesure où le censeur ne développe pas un pouvoir entendu au sens juridictionnel et assorti de sanctions, mais où il induit par son regard une action réflexive de la part des gouvernés ou des sujets, seulement dans cette mesure-là, qu'il peut atteindre son but, à savoir arriver à l'intérieur des maisons, dans des univers clos, sur lesquels il ne peut pas avoir de maîtrise directe. Et un autre fragment de ce même chapitre 7 du livre 4e va tout à fait dans ce sens-là. Hein, je cite, le passage est assez comique de surcroît, je cite Cicéron, « Il ne convient pas de charger un préfet de surveiller les femmes, comme c'est la coutume en Grèce, mais il faut qu'il y ait un censeur pour apprendre aux maris à diriger leurs épouses. » Donc on voit toute la perspective essentiellement indirecte qui est déployé par ce censeur qui se contente de classer et qui donne lieu de la sorte à tout un apprentissage hein, qui rebondit d'homme en femme et à l'intérieur de la maison. Alors, chez Bodin, et chez Montchrétien qui reprend pour une bonne part Bodin, le rôle du censeur est pensé lui aussi toujours en distinction et en opposition par rapport à l'action réglementaire, à l'action juridictionnelle de la loi. Bodin reprend les mots de Cicéron, il ajoute des formules comme celle-ci, le censeur n'est que, je cite, « un regard, une parole, un trait de plume ». Surtout, tout ce qui lui permet de décrire les avantages que revêt cette institution consiste dans sa différence par rapport à la loi. Le propre du censeur, c'est d'agir sur des choses sur lesquelles la loi n'a pas prise, d'agir sur chacun pris dans sa singularité, d'agir de telle sorte que personne n'y échappe, là où on dit toujours qu'on échappe à la loi, d'agir de manière constante, de manière lente, d'agir surtout sur ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire sur le glissement, sur la dérive, sur l'inflexion, bref, pas du tout sur l'infraction, mais sur ce qui tend vers l'infraction. Hein. Et ici, il faut évidemment se rappeler cette, ces grands mots d'Aristote, qui dit que l'essentiel de la politique est, ou serait, parce qu'il faudrait plutôt parler au conditionnel, serait de saisir toujours le mal à son origine, c'est-à-dire pas du tout traquer le mal, mais traquer le devenir vers le mal. On peut dire que c'est précisément à cela que répond, de manière assez rare, assez surprenante, l'institution du censeur. Surtout, Bodin reprend les auteurs anciens pour signaler que l'action du censeur n'est pas du tout juridictionnelle, mais il ajoute un argument qui me paraît fondamental, dans la mesure où il nous dit à ce moment-là que s'il est important que le censeur n'ait pas une action juridictionnelle, c'est parce que si elle était juridictionnelle, cette action, elle serait synonyme de tyrannie. Alors, d'abord, et je le signale au passage, parce que je trouve que le thème mérite presque une thèse de doctorat, d'abord, ça se situe dans un débat théorique qui est mené à l'époque par Bodin, qui discute avec Cujas, par exemple, avec d'autres juristes de l'époque, quant au fait de savoir si il est possible d'envisager un pouvoir, un impérium, qui serait dépourvu de juridiction. Est-ce que ça agit, un pouvoir sans juridiction? Et donc, l'exemple qu'il en donne, c'est le censeur. Mais surtout, au-delà de ce débat purement théorique, mais qui vaudrait encore de nos jours, celui d'un pouvoir sans juridiction, ceci prouve que l'action normative stricto sensu non juridique est pensée comme telle par Bodin et se justifie pour elle-même, à savoir qu'on se trouve face à la nécessité de gouverner certaines choses qui relèvent de la vie privée de la maison, en sachant que le gouvernement de ces choses-là nous expose directement à la tyrannie s'il devait s'agir d'une action juridictionnelle. Donc c'est parce que l'action du censeur est indirecte, transitive, qu'elle fonctionne par le biais du rougissement et non pas par des sanctions réelles, etc. C'est étant donné tout ça que le censeur peut ne pas être tyrannique. Il me semble qu'on a quelque chose de très important là dans une pensée du bord de la tyrannie qui correspond peut-être à une définition possible du néolibéralisme, pas du tout comme si le néolibéralisme était une tyrannie, mais au contraire comme une pensée du bord de la tyrannie. Alors, maintenant qu'on voit en quoi consiste l'action du censeur, la question est évidemment de savoir comment ça agit. Comment est-ce qu'un pouvoir sans juridiction, comment est-ce qu'un impérium sans juridiction peut quand, malgré tout avoir de l'effet comme le prétend Bodin, comme le prétend Cicéron avant lui, etc. Alors, chez les auteurs du XVIe et du début du XVIIe, cette action propre au censeur se situe uniquement... c'est agissant, disons, uniquement dans la mesure où le censeur permet justement, comme je l'ai dit à la suite de mon chrétien, d'éventer les secrets, c'est-à-dire de montrer les choses telles qu'elles sont réellement dans leurs détails. Et peu importe évidemment de savoir si ça correspond à la réalité ou pas, hein. C'est dans cette prétention à dire les choses telles qu'elles sont, à éventer les secrets. Donc la seule norme qui apparaît ici pour ce pouvoir du censeur, c'est une norme de pure transparence, de clarté. Il s'agit de créer de la visibilité. On se trouve typiquement là face à une norme qui n'en est pas une, face à une norme sans contenu, en quelque sorte. Et tout ce discours, là je ne peux pas entrer dedans, est nourri d'ailleurs par une série impressionnante de métaphores purement visuelles. Hein. Les auteurs se réfèrent au miroir, au cristal, à la clarté, à la transparence. Mais enfin, on est toujours dans ces métaphores visuelles. Que ce soit chez Bodin ou chez Lipse que j'ai cité, ou chez des auteurs plus proches du calvinisme, comme Barnot, Frumenteau. Barnot écrit par exemple un texte qui s'appelle « Le miroir des Français », et il explique qu'il s'agit de faire la clarté sur le royaume. Bref, il s'agit, chez tous ces auteurs, toujours, de dresser un tableau essentiellement quantitatif, Benoît le signalait du point de vue de l'époque contemporaine, un tableau quantitatif des choses telles qu'elles sont réellement, et ce jusque dans leurs détails les plus infimes. Et il faut aller loin dans le texte de Barnot que je signalais tout à l'heure, le livre français, il va jusqu'à dire qu'il faut savoir combien il y a d'ânes, combien il y a de ceci, combien... il faut vraiment tout recenser à leurs yeux. Hein. Alors comment se justifie cette création de lumière, cette création de transparence? D'abord, ça se justifie parce que tout simplement c'est efficace. Du point de vue du gouvernement des choses, que je signalais tout à l'heure, du point de vue du gouvernant, en quelque sorte. Hein. Bodin, par exemple, explique qu'il n'y a pas, je le cite, il n'y a tyran si cruel qui ne prie plus volontiers sur le riche que sur le pauvre. Donc il faut connaître les choses, parce que comme ça vous savez qui est riche, qui est pauvre, vous allez prendre chez les riches. Barnot, que je citais aussi, explique « le vrai, le juste, le nécessaire se voit apertement, ouvertement, donc au doigt et à l'œil ». Donc si vous connaissez les choses, vous gouvernez mieux, c'est assez clair. Ça renvoie donc à un bon sens, à un sens de la mesure du gouvernement, qui témoignerait bien de cette possible compréhension de la naissance de l'économie politique que j'ai donnée tout à l'heure, à savoir d'une extension nécessaire du politique pour bien gouverner. Il faut connaître ce qu'on gouverne. Mais cette lecture-là, qui est tout à fait juste, hein, j'ai repris des auteurs qui la signalent, reste insuffisante dans la mesure où c'est aussi par un mouvement réflexif que désignait la rougeur chez Cicéron, justement, que le censeur est censé agir. C'est-à-dire que ça repose donc directement sur les potentialités normatives et réflexives des hommes qui sont regardés, qui sont classés. Et c'est ça que prend en relais avant tout le censeur. Ainsi, mon chrétien dit « le bienfaire ne demande que l'approbation, la vertu que la lumière ». Je poursuis avec toujours avec mon chrétien. Il faut faire voir clair au fond des affaires et non pas gagner en cachant son jeu. Il faut faire en sorte, je le cite à nouveau, que les hommes ne désirent point dérober leur vie, mais se faire connaître à la vue de tout le monde. La vertu ne demande que la lumière, etc. Plus encore, chez Bodin. Il n'y a que les trompeurs, les pipeurs et ceux qui abusent des autres qui ne veulent pas qu'on découvre leur jeu, qu'on entende leur action, qu'on sache leur vie. Mais les gens de bien, qui ne craignent point la lumière, prendront toujours plaisir qu'on connaisse leur état, leur qualité, leur bien, leur façon de vivre. Alors, ce qui n'est pas du tout anodin dans ce passage-là, qui décrit un mécanisme finalement assez simpliste, c'est le fait que c'est très précisément ce qui permet à Bodin de répondre à la question suivante, savoir s'il est bon ou pas qu'on évente le secret des maisons et des familles. Donc face au danger, face à ceux qui critiquent cette possibilité tyrannique que je signalais tout à l'heure d'un censeur qui connaît et qui maîtrise le détail de nos vies, Bodin répond simplement, hein, si vous vous tenez bien, il n'y aura pas de problème. Donc on voit que le danger et la crainte de la tyrannie d'un contrôle total est de nouveau pensé, mais est balayé par l'argument que ce qui est mis en place par ce type de gouvernement, par ce gouvernement par les normes, est seulement une mise en lumière des choses telles qu'elles sont objectivement. Alors ce qui est surprenant, et qui me semble d'ailleurs tout à fait pertinent aussi dans la perspective d'une approche du néolibéralisme et dans la perspective de notre étude du gouvernement par les normes, c'est que, et je suis en train de terminer, vous en faites pas, c'est que dès lors, l'institution du censeur, avec cette lumière qu'il est censé produire, agit, déploie son action et se justifie par rapport à ce danger de la tyrannie, par rapport à ce danger d'une maîtrise totale sur les choses, de la même manière, c'est-à-dire en se contentant de montrer, c'est-à-dire de ne rien faire. On peut dire que faire, c'est-à-dire réglementer, hein, définir des règles qui permettraient le contrôle de nos actions, est définitivement considéré comme intrusif ou tyrannique par un Bodin, au même titre que dans l'optique du néolibéralisme, faire, réglementer, agir serait toujours porteur de déresponsabilisation. Donc dans les deux cas, il s'agit de mettre en avant un type de gouvernement qui se contente de montrer et de dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc je vais en rester là en voulant tout simplement donc pointer à la fois chez les auteurs qui m'occupent habituellement, qui sont un peu poussiéreux, et dans la perspective d'une étude du gouvernement par les normes et d'une étude du néolibéralisme, la nécessité de se référer à cette prétention à l'objectivité ou à cette forme bien précise d'objectivité qui est liée à un discours qui se contente de montrer, de dire les choses telles qu'elles sont, ou de faire en sorte qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Il me semble qu'il y a là quelque chose comme le cœur de ces processus de normalisation qu'on veut étudier, qui permet d'éviter tout à la fois la tyrannie, comme on l'a vu chez Baudin, que la déresponsabilisation des sujets par un gouvernement qui serait trop présent, comme c'est le cas dans le néolibéralisme. Alors voilà, il manque quelque chose, je vous dis seulement ce qui manque, évidemment. C'est qu'il ne s'agit pas, et là l'approche foucauldienne est primordiale, il ne s'agit pas simplement de développer des dispositifs qui disent les choses telles qu'elles sont, mais il s'agit de faire dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Il est clair qu'il ne s'agit pas de simplement du censeur qui regarde, pour le dire vite, mais qu'il s'agit de se sentir regarder et donc de se regarder soi-même. Il ne s'agit pas seulement, dans la perspective des processus de normalisation, d'évaluer, mais de s'évaluer soi-même dans la mesure où on est évalué. Et ça, c'est évidemment... Voilà, c'est ce qui manque. Je m'arrête.
Merci beaucoup.